Ping.
Aïti, aïti.
Radio Campus.
Prenez ça, ça dégage.
Oui.
Radio Campus.
Ok.
Joli.
La guerre du Vietnam bat son plein. L'Amérique a envoyé ses GIs au sud.
Contestation rime avec répression. Contestation, répression.
Le cortège est protégé par 5 véhicules blindés et un hélicoptère.
Ce sont aussi les premiers bombardements de l'US Air Force au nord. 65, c'est aussi la crise de Saint-Domingue.
Cette mesure provoque une vague d'émeutes d'une ampleur exceptionnelle. 24 morts en 3 jours et des troubles. Échec d'un coup d'État, toujours déclenche la tuerie au palais de la
Sécurité. De plus en plus, l'Amérique s'érige en gendarme du monde. Et Ben Barka ne cesse de dénoncer partout où il se rend l'impérialisme de l'Amérique et de ses alliés.
Cela a provoqué une rébellion militaire qui a abouti à une loi d'Alfonsine, selon laquelle les militaires d'un rang inférieur à celui de colonel n'étaient plus passibles de poursuite.
Ouais, bah, j'ai connu un mec de droite une fois, il avait 10 fois plus de clash.
Washington est en feu. Les Noirs descendent dans la rue, plus de 500 magasins ravagés, des quartiers entiers incendiés. Bilan, 7 morts, 1200 blessés.
À bâton rompu sur Radio Campus Orléans et Radio Campus Tours, bonsoir à vous. Et bonsoir Victor, qui est de retour.
Oui, bonsoir Hassan, bonsoir à toutes et à tous.
Après une semaine de vacances.
Oui, dans le Jura, à côté de Dole.
Oui, à manger du fromage.
Ouais. C'était
et
bien.
Tu ne nous en as pas...
Si, j'en ai ramené à Alexia, j'ai ramené du comté 18 ans d'âge, 18 mois, pardon,
bon, très bien. À Alexia. La semaine dernière, je disais que combien de bien je pensais des chroniqueurs de cette émission. Tu n'étais pas là, donc je profite pour le dire aujourd'hui. Exceptionnel. Bonsoir. Bienvenue. Dans notre magazine hebdomadaire de ce soir, nous parlons de politique de vélo à Orléans. Orléans solidaire et écologique faisait signer une pétition sur le pont Royal à Orléans. C'était samedi 16. Nous en parlons avec Jean-Philippe Grand. Bonsoir Jean-Philippe Grand.
Bonsoir à toutes et à tous.
Plus proche du micro parce que je crois qu'on ne vous entend pas. Alors, qu'est-ce que... Allez-y.
Bonsoir à toutes et à tous.
Eh ben oui, voilà, le micro est mieux. Vous êtes conseiller municipal à Orléans, conseiller municipal d'opposition, et vous êtes un des porte-parole de Oze. Hein.
Je suis en effet le président de Oze, oui.
Président même.
Eh oui.
Bah oui, je l'ai pas vu marquer. Enfin, voilà. On en parlera tout à l'heure. On aura le temps d'en parler de cette pétition qui est encore en ligne pour demander que le pont Georges V ou le pont Royal soit complètement pour les vélos et les piétons.
Voilà, une expérimentation pendant 6 mois sur le pont pour le rendre aux piétons et aux cyclistes, parce qu'on voit qu'il y a des conflits d'usage de plus en plus importants entre les uns et les autres, et que les voitures ont déjà trouvé des alternatives sur les autres ponts, donc voilà, autant le rendre totalement... aux mobilités douces.
Ah ben, il faudra vraiment expliquer ça parce qu'il y a des...
En mobilité active, on dit.
douce et active, si tu veux.
Avec vraiment... Ouais, non, mais il y a même des copains qui trouvent que l'idée n'est pas terrible. Voilà, parce qu'ils sont emmerdés sur le pont Joffre et sur le pont Tina tous les soirs. Bon, bref, vous aurez l'occasion
de... Oui, ça ne changera pas grand-chose.
Oui, voilà, c'est ça. Mais vous le savez, amis auditeurs, pour démarrer cette émission, Mourad de Guichard, journaliste indépendant, avec qui nous décryptons les médias, la façon de faire des médias. Et aujourd'hui, nous parlons de cette affaire hallucinante qui s'est passée à la Provence. Ben, on écoute ça tout de suite même, juste après un jingle, puis... En tout cas, à bâton rompu, bienvenue.
À bâton rompu, avec Hassan Kerim.
Bonsoir Mourad.
Bonsoir à toutes et à tous, bonsoir Hassan.
Bienvenue dans cette émission. Ta chronique, faut-il le rappeler, est très souvent consacrée à la critique des médias. Ce mardi, nous parlons d'indépendance éditoriale. Après cette affaire hallucinante, il faut le dire, de sanctions du directeur de la Provence, quotidien régional basé à Marseille, Aurélien Viers, sanctionné après une une jugée irrespectueuse, après une visite médiatisée d'Emmanuel Macron à Marseille. Est-ce que tu peux nous remettre tout ceci en perspective ?
Oui, alors une opération est menée un peu partout en France, une opération dite XXL contre les points de deal par Darmanin. Et puis ça se passe ce coup-ci à Marseille. Et là, surprise, on voit débarquer Emmanuel Macron, qui n'était pas prévu, qui vient faire son show dans les quartiers populaires de la Castellane, donc les quartiers nord, hein, qui est un peu l'équivalent de, on pourrait dire, de la Source ou de l'Argonne concernant Orléans. Où il y a effectivement de nombreux points de deal, mais où ne se pose absolument pas la question de la légalisation, de la question de l'encadrement de la vente de cannabis, comme peuvent le défendre, hein, par exemple, des députés En Marche, enfin En Marche, Renaissance maintenant, comme Caroline Janvier, ou d'autres députés, notamment de Meurthe-et-Moselle, et puis des universitaires comme Yann Bizioux, qui demande qu'on arrête cette espèce de surenchère, en fait, sécuritaire, qui en fait ne sert à rien qu'à part faire des coups de com'. Et puis la Provence va, de manière très opportune, faire une une où on voit deux jeunes de dos, assis sur un banc, et qui disent « il est parti, nous on est toujours là ». Mais, sous-entendu, ça n'a rien réglé à quoi que ce soit. On est toujours dans la même condition, dans les mêmes conditions sociales, financières, enfin économiques, au niveau de l'emploi, et ainsi de suite. Et c'est interprété par Saadé, qui est le nouveau propriétaire de la Provence.
Rodolphe Saadé.
Oui, Rodolphe Saadé, qui est un multimilliardaire, héritier de son père, hein, qui est un grand patron du fret maritime, et qui va interpréter ça comme, en fait, on laisse la parole au dealer et on fait un pied de nez à mon ami Emmanuel Macron en disant. Ok, boomer, toi t'es parti, mais nous on est toujours là et on va continuer notre business. Ce qui n'était pas du tout cette une. Cette une était factuelle, je trouve un bon moment de journalisme. Et donc il va de manière autoritaire, voire autoritariste, débarquer le directeur de la rédaction et le mettre à pied pendant, je crois, 8 jours, ce qui va provoquer un mouvement social au sein de l'entreprise avec 80% des salariés qui vont décider de se mettre en grève et donc d'arrêter la publication du journal La Provence.
Tu as eu au téléphone il y a quelques heures Sylvain Pignol, un confrère de La Provence, hein, et syndicaliste.
Absolument, qui était au service politique, qui est délégué du SNJ, donc le premier syndicat des journalistes de France, et qui va me répondre sur vraiment le déroulé de cette affaire avec la notion de vraiment de vigilance sur ce qui va se passer dans les semaines, dans les mois à venir, parce que, et comme il va le préciser, Saadé est volontaire, est volontariste, je ne sais pas où on est exactement, je ne veux pas dire de bêtises, où on est exactement la négociation avec le groupe Altice, mais qui pourrait reprendre le groupe Altice, à la fois BFM TV, donc qui est patron de BFM TV, d'Ivan Catouz, enfin une série de chaînes. Et donc je vous laisse écouter son propos.
Sylvain Pignol.
Sylvain Pignol, donc vous êtes journaliste politique, vous êtes représentant SNJ, donc le premier syndicat des journalistes de France. Pour le CSE La Provence. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en fait la genèse de ce conflit ? Est-ce que, en gros, c'est un éclair dans un ciel bleu, ou est-ce que vous vous attendiez à quelque chose de similaire, à savoir le débarquement provisoire, évidemment, du directeur de la rédaction ?
Alors, ce qu'il faut dire et ce qu'il faut expliquer, c'est que Aurélien Viers a été nommé il y a un an à l'arrivée. Aurélien Viers, qui est le directeur de la rédaction, a été nommé il y a un an à l'arrivée de la CMA-CGM comme propriétaire de la Provence. Et depuis, du chemin avait été parcouru pour essayer de travailler sur l'indépendance de la rédaction de la Provence vis-à-vis de tous les pouvoirs. Alors je dirais pas que le ciel était tout bleu, évidemment. On va dire que le ciel était plutôt nuageux. Mais la sanction qui a été annoncée le vendredi 22 mars à l'encontre d'Aurélien Viers, une mise en retrait provisoire au motif que la une du jour précédent, du jeudi 21 mars, était problématique, nous a totalement choqués et surpris parce qu'elle apparaissait comme totalement disproportionnée, voire inique. Puisque d'après nous, en tout cas pour le SNJ et pour la rédaction qui s'est mise en grève le vendredi 22 mars, aucune faute déontologique n'avait été commise.
Comment ça a été ressenti au sein de la rédaction? Comment vous l'avez perçu? Est-ce qu'il y a eu une réaction unanime rapide ou est-ce qu'il y a eu un flottement? Comment s'est passée la mobilisation pour arriver au fait que le journal ne soit pas édité les jours suivants?
Alors on avait déjà eu une première piqûre de rappel, si je puis dire, en tout cas une piqûre préventive, c'est qu'on avait déjà eu un conflit social au mois de novembre qui avait duré 4 jours de non-parution pour protester contre la suppression de 30 postes de journalistes à la rédaction sur lesquels on n'a pas eu gain de cause. Et là on était sur d'autres valeurs, sur les questions d'indépendance éditoriale et de journalisme et... Je peux dire que la rédaction a immédiatement réagi très fort puisqu'on s'est réunis en assemblée générale le vendredi à midi et que dans la foulée une grève illimitée était votée avec motion de défiance adressée à la direction générale de la Provence et à la direction de Why Not Media qui est la filiale média de CMA-CGM qui est dirigée par Rodolphe Saadé. Immédiatement votée à 80% cette grève. Et le journal n'est pas paru le samedi, le dimanche et le lundi. Vraiment, l'émoi était très fort pour l'ensemble des journalistes, puisque les raisons qui ont été invoquées par la direction pour justifier cette mise en retrait du directeur de la rédaction, c'est une une du journal qui était jugée comme ambiguë, qui pouvait laisser... penser qu'on donnait la parole à des dealers, à la cité La Castellane, 48 heures à peine après le passage éclair d'Emmanuel Macron. Voilà, ce qui nous a été reproché, au final, c'est nous ce qu'on estime, c'est d'avoir fait notre travail de journaliste, notre travail d'information, de proximité, de rapporter des faits, et ça nous paraissait être une atteinte intolérable à notre travail de journaliste.
Alors hier, un communiqué de l'intersyndicale précisait qu'une réunion avait eu lieu, donc hier lundi, qui allait définir la suite du mouvement. Où en est-on?
Alors, si je reviens un peu en arrière, dimanche soir, au terme visiblement de discussions qui ont duré toute la journée entre Aurélien Viers et la direction de l'entreprise et de Why Not Media, Aurélien Viers s'est entendu avec la direction pour revenir dans ses fonctions et ne pas être licencié comme il devait l'être, en tout cas comme on soupçonnait qu'il puisse l'être. C'est la mobilisation de toute la rédaction qui s'est mise en grève pendant 4 jours qui a permis d'arriver à cette solution pour lui. Mais nous, ça nous suffisait pas, la réintégration d'Aurélien Viers. Nous, ce que nous voulons, c'est des garanties pour que ce type d'épisode ne se reproduise plus à l'avenir, que sur un trait de plume, sur une décision prise sur peut-être un coup de sang, on ne sait pas, on puisse éjecter le directeur d'une rédaction qui a bien fait son travail dans ce cas précis. Donc, on a demandé l'ouverture immédiate de négociations pour amender la charte d'indépendance qui était en discussion depuis plusieurs mois, avec des discussions parfois compliquées, parfois plus faciles, pour trouver des mécanismes qui permettent d'éviter qu'on se retrouve dans ce type de situation, que la direction de l'entreprise et la direction du groupe dirigé par l'actionnaire majoritaire ne puissent pas dégager le directeur de la rédaction au simple fait qu'il aurait déplu à quelques lecteurs En l'occurrence, on nous a surtout parlé d'élus locaux qui se seraient plaints de cette une, qui brouillerait le message d'Emmanuel Macron, qui était venu présenter un plan de lutte contre le trafic de stupéfiants.
Alors concrètement, c'est-à-dire que les lecteurs de la Provence vont retrouver les journaux dans les kiosques bientôt ?
La parution a repris ce mardi 26 mars. Et ce que nous avons obtenu aussi au terme de ce combat, puisque c'est ce qui avait un peu mis le feu aux poudres, c'est la publication d'un message à nos lecteurs, signé de la rédaction, qui affirme et qui réaffirme qu'aucune faute déontologique n'a été commise dans la publication de la fameuse une. Alors je rappelle rapidement cette une du jeudi 21 mars. C'est une photo de deux jeunes gens qui sont assis sur un muret au pied d'une tour dans ce quartier de la Castellane, dans les quartiers nord de Marseille, et qui est surmontée d'une citation qui dit « Il est parti et nous on est toujours là ». Il est parti, c'est-à-dire Emmanuel Macron, et nous on est toujours là. Et c'est-à-dire les habitants de la Castellane qui font le constat que malgré l'opération de communication sur la lutte contre le trafic de drogue, leur quotidien n'a pas évolué et que les problèmes sont toujours les mêmes. Voilà, donc nous on a obtenu au terme d'une négociation de pouvoir publier l'avis de la rédaction qui vient répondre en quelque sorte à un mot d'excuse publié sans l'avis de la rédaction vendredi matin, signé du directeur de la publication, c'est-à-dire le directeur général de l'entreprise, Gabriel Darcourt, qui estimait qu'on avait complaisamment donné la parole à des dealers et qu'on avait induit en erreur nos lecteurs, ce qui est totalement faux et aberrant.
La suite des événements, pour terminer, la suite des événements, vous allez vous poster dans quelque chose dans une posture en fait, de vigilance sur la suite des événements ?
Alors, vigilance accrue, voire méfiance, puisque cet épisode a laissé des traces dans la rédaction. De nombreux confrères s'interrogent encore sur la possibilité de pouvoir écrire ce qu'ils souhaitent au terme de leur travail journalistique. S'ils constatent que des dealers sont installés dans une cité, va-t-on pouvoir le dire ? En tout cas, sera-t-on... La direction de l'entreprise sera-t-elle solidaire de notre travail journalistique dans ce type de situation ? C'est vraiment des interrogations qu'il y a. Et au-delà, je pense que ça a concerné beaucoup plus largement que la Provence. On l'a vu parce qu'on a reçu de nombreux messages de soutien, à commencer par les journalistes des rédactions détenues par la CMA-CGM, c'est-à-dire la Tribune Dimanche, celle qui pourrait atterrir dans son escarcelle dans les mois à venir, c'est-à-dire BFM TV, RMC, qui ont été très sensibles et ils se sont mobilisés en solidarité avec les journalistes de la Provence. Je pense que notre combat, malgré toutes les difficultés qu'on a eues pour le mener, il a valeur d'exemple. Dans un débat qui est très actuel, c'est celui de l'indépendance des rédactions vis-à-vis de tous les pouvoirs. C'est un débat qui est au cœur des discussions des états généraux de l'information qui ont lieu actuellement. Et je pense qu'on a quelque part apporté un peu notre pierre à l'édifice pour avancer dans le combat sur l'indépendance des rédactions, pouvoir produire une information de qualité qui ne soit pas suspectée d'être partisane. Voilà, c'est notre pierre à l'édifice et évidemment, oui, on va continuer à se battre.
Post-scriptum, Sylvain Pignol, est-ce que vous soutenez, vous qui êtes militant syndical et journaliste, est-ce que vous soutenez, alors je ne sais pas si c'est encore à l'état de proposition de loi, mais la proposition de renforcer le poids des sociétés des journalistes au sein des rédactions et permettre, par exemple, de s'opposer majoritairement à des nominations qui seraient déontologiquement qui poseraient problème en termes d'indépendance journalistique.
Je pense que tout ce qui permettra à des structures organisées type Société des journalistes de faire entendre sa voix, de faire entendre des valeurs d'éthique, de déontologie conformes à l'esprit du journalisme et conforme à notamment à la charte de Munich, qui est un peu le texte fondateur des droits et devoirs des journalistes, sera forcément une avancée. Donc oui, si texte de loi il y a sur ce sujet, moi personnellement je le soutiendrai, à fond et je pense que ça ne peut qu'aller dans le bon sens.
Merci infiniment, Sylvain Pignol.
Merci à vous, merci.
Oui, ça fait un peu flipper, Mourad. Hein. C'est, comme il dit, ça a laissé des traces quand même. Hein.
Oui, ça vient rentrer en conflit direct avec les discours des élitocrates. Alors, je pense notamment à Ruth El-Krieff, hein, puisque je l'avais pointé à plusieurs reprises dans mes chroniques sur le Média TV, à savoir que elle avait tenté de flinguer le discours de Dominique de Villepin qui pointait le fait que c'était très compliqué, notamment aux États-Unis, critiquer ce qui se passait en Israël, ce qui se passait à Gaza, et que ceux qui prenaient position pour des raisons humanitaires par rapport à la population gazaoui risquaient de se faire flinguer par leurs patrons, à savoir les patrons des chaînes de télé, les patrons des studios, et que c'était la même chose en France. Elle avait, elle, pris position, Ruth El-Krieff, en disant « mais c'est impossible, c'est un complot, c'est du complotisme de dire que il pourrait y avoir de la censure de la part des patrons de médias français ». On en a la preuve absolue, totale. Donc Ruth El-Krieff est une menteuse, est une journaliste partisane qui ne réalise absolument pas ce qui se passe, et qu'effectivement nous avons ici un exemple gravissime, à tel point que, voilà, enfin, je veux dire, il suffit d'aller voir, alors, le concurrent de la Provence, par exemple, qui est la Marseillaise, pour laquelle j'ai œuvré il y a quelques années de ça, il suffit d'aller lire les articles de l'excellent journaliste Amaury Baquet, qui a suivi ce conflit et qui soutient la Marseillaise, donc qui est théoriquement concurrent de la Provence, soutient absolument, évidemment, cette mobilisation. Donc ça fait un consensus au niveau de la presse, mais la presse qui est sur le terrain, pas évidemment des idéocrates, mais oui, il y a un réel problème, et évidemment, moi, à titre perso, j'apporte mon soutien à cette mobilisation, et je trouve qu'il y a là, pour le coup, la preuve que le problème de la concentration des médias dans les mains de milliardaires qui perdent de l'argent, je précise bien, hein, qui perdent de l'argent en investissant dans les médias, ont une autre raison pour justement mettre ses billes, et qui sont des raisons politiques, des raisons stratégiques, des raisons économiques, et que dès que c'est contrarié par la réalité des faits, il y a une intervention de leur part. Et effectivement, ça, c'est un vrai problème.
Ouais. Il y a des assises, et Sylvain Pignol le rappelait, il y a des assises, hein, en ce moment de la presse. Est-ce que tu les suis? Moi, j'ai lu des choses un peu diverses, hein, sur des gens qui critiquaient, mais est-ce qu'il va sortir quelque chose de bien sur ce domaine, justement, d'indépendance éditoriale, d'après toi?
Alors on va voir, parce que j'ai toujours... penser, alors je peux me tromper, hein, je suis pas, voilà, j'ai toujours pensé que les assises jusqu'alors étaient un peu corporatistes. Aujourd'hui, je pense qu'elles peuvent jouer un rôle d'alerte, de lanceur d'alerte, d'avertisseur sur ce qui se passe au niveau des critiques. On va voir ce qui va se passer, hein, puisque ça vient de commencer. Ça a commencé hier, je crois.
C'est ça.
Lundi. Donc on va voir ce qui s'y dit, quels sont les débats. On a Élodie Cerquera qui est une ancienne consoeur de Maxence, qui maintenant est présidente du club de la presse du Centre-Val de Loire, qui est présente, qui espère faire bouger les lignes. On va suivre ça. D'ailleurs, ce serait bien qu'on l'invite, qu'on trouve l'opportunité de l'inviter et qu'elle puisse être présente dans nos studios. Voilà, je croise les doigts. Je croise les doigts pour savoir ce qui va en ressortir. J'ai pas d'a priori négatif. Je dis juste que pour l'instant, c'est un peu corpo. J'espère que ça peut être un levier pour effectivement contrarier et dénoncer ce genre de dérive.
On te retrouve sur le Média cette semaine, le Média TV.
Oui, absolument.
C'est demain.
Oui.
Voilà, c'est demain donc.
Oui, il y aura peut-être un petit décalage. Alors, oui. Normalement, c'est demain soir, mais voilà, il faudra suivre le fil de Twitter notamment et du Média. Mais oui, on va revenir notamment sur l'omniprésence de BHL, Bernard-Henri Lévy, sur les médias sans aucune justification, parce qu'il n'a pas de compétences.
Cette semaine, il était partout et il a dit les mêmes bêtises comme d'habitude. Enfin, voilà.
Oui, absolument. Il a même corrigé ses propres bêtises en parlant de lui à la troisième personne. Donc, c'est complètement hallucinant. Et puis, on a De Vecchio du comment du Figaro qui l'a interviewé sur Sud Radio en l'appelant Alain Finkielkraut, ce qui raconte beaucoup de choses. Mais voilà, on a affaire à un cirque médiatique qui semble ne pas avoir de fin. Donc je vais essayer de décrypter et d'analyser dans la prochaine chronique effectivement du Média TV et de l'œil de mouvement.
Eh ben, si tu as un peu le temps ce soir et que si tu peux suivre l'interview qui va suivre de Jean-Philippe Grand, conseiller municipal d'opposition à Orléans et porte-parole de l'association Orléans Solidaire et Écologique, on va parler de politique vélo. Je sais que ça t'intéresse.
Absolument.
Tu as un peu le temps de nous écouter. Et on pourra te rappeler.
Ah oui, avec grand plaisir. J'aurai quelques questions à poser à Jean-Philippe Grand, effectivement.
À tout de suite donc, Mourad.
Merci beaucoup, à tout de suite. Yes.
It was 96 degrees. My mother wasn't sure. She was crawling on her knees, yelling into the hallway, crying on the floor. She left her soul behind her. My mother wasn't sure that she had was 19.
La voix si jazzy, si soul de Sandra Nkake à l'instant. Son dernier album est sorti courant 2023. Son titre c'est Scars, même. Et à l'instant, She Was 19 dans Abaton Rompu sur les deux Radio Campus de la région, Orléans et Tours.
Abaton Rompu sur Radio Campus Orléans et Radio Campus Tours tous les mardis de 19h à 20h.
Notre invité, Jean-Philippe Grand. Rebonsoir, Jean-Philippe Grand. Merci d'avoir accepté l'invitation.
Merci à vous.
Vous êtes conseiller municipal et président, pas porte-parole, de l'association. Alors, c'est une association OSE, alors. Orléans,
exactement.
Solidarité écologique.
Oui.
Mais vous étiez candidat au municipal dernière, à la tête de OSE, hein, c'est ça ?
Tout à fait. C'est-à-dire qu'à l'époque, c'était le nom de l'équipe que nous avions constituée dès 2018, en fait. Au moment où, justement, j'étais avec quelques copains sur le pont Georges V pour faire signer la première pétition. Et donc voilà, ça a été le nom de notre liste et on l'a conservé et on a relancé sous forme d'association pour des raisons purement pratiques. C'est que ça permet d'accéder à des salles à un coût très faible et à faire vivre justement une équipe qui avait envie de continuer et puis de s'engager évidemment pour 2026.
Et votre actualité, donc, je disais en début d'émission, c'est donc une expérimentation que vous proposez pour réclamer une circulation sans voiture sur le pont Georges V, vous en parliez. Alors, il faut rappeler pour les auditeurs de Tours qui ne connaissent pas, le pont Georges V et le pont Royal également, c'est le même nom. C'est un des trois ponts d'Orléans.
Quatre avec le pont de l'Europe.
Ah mais oui, mais c'est vrai, j'oublie toujours le pont de l'Europe. Mmh. Mais c'est un pont qui est, vous avez réussi à avoir une voie, la voie nord-sud, qui était interdite aux voitures. Ça mériterait qu'on revienne dessus. C'était en
2018, en fait, sur le pont Georges V, donc avec quelques amis écolos, on a décidé de faire signer une pétition, de demander à ce qu'il y ait déjà à l'époque, en fait, une expérimentation sur 6 mois, parce qu'on s'était dit qu'en plus, on n'était pas sûr du sens, est-ce qu'il fallait un sens entrant ou sortant à la piste cyclable, ouais, sur le pont. Et donc, du coup, on disait, tester pendant 6 mois dans un sens, 6 mois dans l'autre, et puis on verra quel est le plus opportun des deux.
Ouais, c'était un maire, c'était un ancien maire.
C'était Olivier Carré, à l'époque, qui avait...
Ça a été facile de
non, 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 ah non, ouais, ça non, a été... Ouais, au départ, c'était impossible. Ouais. On m'a expliqué que ça allait créer des embouteillages de vélos. Il y a même une étude qui a été commandée par la ville qui a eu comme conclusion que ça allait faire des embouteillages de vélo au bout du pont, que c'était impossible de la mettre en place. Oui. Voilà, et puis il se trouve que le Covid est passé par là, et que du coup la piste est apparue, et que personne, Serge Grouard en premier lieu, n'a osé l'enlever, parce que ça a tout de suite été une réussite.
Mais
c'était une évidence. C'est-à-dire que des personnes qui viennent d'Olivet, quand même, aujourd'hui, donc tout le quartier Saint-Marceau, le plus peuplé de la ville d'Orléans, qui du coup traverse ce pont en sécurité à vélo. C'était une évidence, et aujourd'hui ça fonctionne très bien, ça permet d'avoir réellement de fluidifier tous ces mouvements en fait nécessaires pour les cyclistes qui aujourd'hui, clairement, moi j'ai énormément de témoignages de personnes qui me disaient, nous on prenait jamais ce pont en famille, parce que si vous voyez bien, entre le tram, la voie pour la voiture et le trottoir, il n'y avait pas de place pour les vélos. Donc ça a très bien fonctionné. Et puis il y a eu ensuite les dimanches en douceur, donc on mettait là deux barrières et on rendait le pont, c'est pour ça que je dis toujours comme ça, moi je dis il faut rendre le pont aux piétons et aux cyclistes, parce que la réalité c'est que quand on réfléchit bien, je répondrai d'ailleurs du coup tout à l'heure à la question sur le fait qu'en effet le pont Joffre et le pont Tina sont encombrés à quelques heures dans la journée,
il y en a
et que c'est évidemment un problème, mais c'est pas le pont Georges V qui règle le problème pour ceux qui veulent absolument utiliser leur voiture. Et donc voilà, concrètement, aujourd'hui il y a des vrais conflits d'usage entre piétons et cyclistes. Oui. Il y a énormément de coureurs en particulier, parce que un coureur à pied sur le petit trottoir que vous avez entre les voitures et le trottoir qui n'est pas large, généralement, ça se passe évidemment mal avec quelqu'un qui marche, voire qui passe avec une poussette. Et donc, du coup, les coureurs prennent la piste cyclable, voire certains marcheurs. Et donc, on voit bien qu'il y a de plus en plus de conflits entre les uns et les autres. Et nous, on est pour apaiser la circulation en ville, et en particulier quand on est piéton ou cycliste, qui sont les plus fragiles en fait face aux voitures. C'est quand même ceux qui sont aujourd'hui les plus fragiles et les moins bien considérés. Et donc, on a fait cette demande, on a fait signer cette pétition samedi, et on va y retourner. On a plus de 500 signatures aujourd'hui, entre les près de 300 qui ont signé samedi, plus ceux qui ont signé en ligne. Et on encourage tous les habitués de ce pont, tous ceux qui font du vélo, à signer cette pétition.
Sur la page Facebook de la radio, j'ai mis le lien pour si vous êtes intéressé. Vous en faites quoi de ces signatures ?
Eh bien, on va les présenter au maire d'Orléans. On va venir le voir. Alors, j'espère on va aller de nouveau, en attendant que, évidemment, courant avril, il y a un certain nombre de signatures qui viennent s'ajouter. On va aller également dans les marchés. On verra en tout cas les différentes actions qu'on va mener d'ici le mois d'avril, la fin avril, avec l'objectif d'ensuite d'aller voir le maire et lui dire, voilà, on a, je l'espère, au moins 1000 signatures, et on vous demande donc de faire cette expérimentation de 6 mois et d'enlever les voitures du pont.
Et vous avez bon espoir, ou parce que Serge Grouard, c'est quand même pas forcément l'ami des cyclistes, donc.
On va faire. Je crois qu'on aura dans un premier temps les mêmes remarques et le même fonctionnement qu'auparavant. Et puis j'ai en effet bon espoir. Puis si ça se fait pas, on verra ce qui se passe en 2026. Et puis j'aurai peut-être le plaisir de mettre en place.
Ouais. pas tant que ça, Victor, parce que je vais vous faire écouter Serge Grouard qui, lors d'un des derniers conseils métropolitains. Serge Grouard est également président de la métropole. Et il y a eu une discussion autour du budget, je crois, et le vélo s'est inscrit là-dessus. Et oui, je vous le fais écouter et j'aimerais que vous réagissiez après Jean-Philippe Grand.
Sur la question de la politique cyclable, je veux dire que effectivement, vous disiez avant la fin de l'année, mais l'organisation, il y a eu des réunions qui ont été tenues. L'organisation, elle est préparée, elle est lancée. Et maintenant... nous avons eu une réunion il y a quelques jours qui, je trouve, était très très porteuse. Et maintenant, il convient de mettre tout cela en musique, avec une organisation globale qui permette de répondre à un certain nombre de critiques qui peuvent être justifiées sur, notamment, la nécessité de compléter le réseau pour éviter les points de rupture sur le réseau cyclable. Ça, c'est un premier point. Pour harmoniser les politiques qui sont conduites communes, métropoles, harmonisées en matière de signalisation signalétique. Donc, il y a une sorte de charte commune qui soit proposée justement aux 22 communes pour que l'on harmonise ces politiques et que l'on identifie bien effectivement les budgets qui sont consacrés, sachant que les budgets sont effectivement là. Voilà sur ce que je voulais dire sur le vélo. Je pense que l'année 24 va voir un certain nombre de travaux très concrets, très opérationnels se dérouler, que l'on va engager un certain nombre de réalisations assez conséquentes en matière de politique vélo.
Voilà. Serge Brouard, je crois que c'était en décembre, hein, décembre 2023. D'ailleurs, ce jour-là, les associations Vélorussion et DAMO, me tromper tout de suite, hein. DAMO, voilà, bon, je vous redirai plus tard.
Milite pour les aménagements cyclables, en fait, dans la métropole.
Ben oui, alors, ils sont déjà venus dans l'émission, notamment en Vélorussion. Dans la métropole, il y avait combien de pistes cyclables, ils nous disaient, je crois que c'est de l'ordre de 2 km, 3 km
qui étaient faits. Oui, c'était ridicule par rapport à des villes.
Mais donc, voilà, on est sur le pont, vous avez réussi à faire traverser ce pont, piste cyclable. Vous travaillez aussi sur la métropole ou pas ?
Oui, en lien justement, en effet, avec les associations. Les propositions de véloroutes qui ont été faites sont tout à fait raisonnables et doivent être mises en place. Oui. La seule chose, c'est qu'il y a en effet un budget qui a été voté. Oui. On est censé mettre chaque année 500 000 euros sur ces sujets-là. Et on voit bien que chaque année, on prend du retard. On n'arrive toujours pas à dépenser l'argent.
Mais comment c'est expliqué, ça ? Vous êtes conseiller métropolitain également ?
Aujourd'hui, les explications, en fait, c'est que les mairies sont assez frileuses, ont du mal à se mettre d'accord pour pouvoir faire ces fameuses continuités cyclables, qui fait que, du coup, quand on prend son vélo, on se dit pas « je vais faire 500 mètres, me retrouver face à un mur, et puis devoir me détourner et avoir quelque chose qui soit cohérent, et un réseau qui soit cohérent », qui est exactement ce que l'on porte, mais que moi, je portais dès 2014, à l'époque, puis en 2020, et aujourd'hui, on se doit, pour justement que les cyclistes soient en sécurité, on se doit de mettre en place ces réseaux. Il y a énormément de choses qui sont faites, en particulier dans le nord de l'Europe. On a étudié ça au sein de l'association, parce qu'on a un groupe mobilité qui travaille depuis plus de 2 ans maintenant, qui a pris évidemment tout le travail qui avait été fait auparavant, qui a ajouté toutes les réflexions en particulier faites par Vélorussion et DAMO, pour pouvoir créer donc ce réseau en sécurité pour les cyclistes. Bah, concrètement, aujourd'hui, on n'avance pas. Parce que, mais ça je le dis en permanence, nous sommes toujours une communauté de communes et non pas une métropole. Une métropole, c'est un endroit où vous avez des élus qui travaillent pour l'intérêt commun de l'ensemble des collectivités et donc des 22 communes. Aujourd'hui, chacun venant exercer son droit de tirage pour sa collectivité, bah, le résultat, c'est qu'on n'arrive pas à mettre en place ce réseau. Et on ne dépense pas l'argent parce que, malgré le fait qu'en effet, ça soit mis au budget de la collectivité, on n'y arrive pas parce qu'il n'y a pas cette cohérence-là, il n'y a pas des élus qui prennent conscience qu'on a besoin de ce réseau et qu'il y a plein de solutions. Ce n'est pas uniquement, comme on le caricature souvent, l'idée d'avoir uniquement des pistes cyclables qui remplaceraient les voitures. Ce n'est pas ça. Ouais. C'est des espaces sécurisés qui viennent en complément avec tout un tas d'aménagements différents qui valent bien mieux que, je pense en particulier à la rue des Cures, parce que c'est particulièrement scandaleux, ces contresens cyclables qui donnent en fait aucune chance à un vélo qui voudrait l'emprunter, parce qu'il a d'un côté les voitures garées et de l'autre côté une voiture qui arrive en face, sur laquelle il n'y a même pas la place pour un vélo de passer. Et donc, quand vous prenez ces rues-là, vous êtes obligé de vous garer pour laisser les voitures passer. Autant vous dire, vous attendez un moment. Donc non, il faut un véritable réseau. Et c'est ce qu'on défend et on continuera à le défendre.
Il y a une question que j'ai posée aux activistes Yann d'Orléans et Trololo Vélo, j'espère qu'ils nous écoutent ce soir, qui était une question, vous l'élu, vous allez peut-être répondre, parce que j'ai entendu ça de la part de la majorité, de certaines personnes de la majorité qui disent « Oui, mais c'est pas vraiment nous. » Vous savez, allez parler aux commerçants. Les commerçants on vit que les voitures rentrent dans Orléans parce que quand on va faire des courses, par exemple, on a besoin de repartir avec les courses dans sa voiture et pas sur un vélo. Ça se fait moins facilement. Alors, l'élu, il dit quoi ?
Alors, moi, il se trouve que je fais partie d'une famille. Je suis orléanais de souche, hein, j'ai 57 ans. J'ai passé toute ma vie quasiment à Orléans. Et donc, concrètement, moi, il se trouve que je suis aussi d'une famille de commerçants. J'en connais beaucoup. Ouais. Et quand je suis venu en 2018 sur le pont Georges V, il y a un commerçant, par amitié, je tairai son nom, mais qui est venu me voir en disant « Tu vas tuer mon commerce
».
Je suis retourné le voir quelques années après. Je lui ai dit « Alors, t'en es où ? Ton commerce est toujours là, visiblement. » Et il a admis que ça n'avait absolument rien changé à son activité, voire même, il voit aujourd'hui des cyclistes qui viennent acheter chez lui, qu'ils ne voyaient pas auparavant. Donc la réalité, c'est que les cyclistes viennent régulièrement dans les commerces de centre-ville, qui sont... pour l'immense majorité aujourd'hui, des commerces qui ne nécessitent pas de venir avec sa voiture. Alors j'entends que 10-15% de la population a l'obligation de se déplacer en voiture parce qu'elle est à mobilité réduite à cause de l'âge, d'un handicap. Et donc ces personnes-là doivent pouvoir accéder. Ça, j'entends ça. La seule chose, c'est qu'aujourd'hui, les 85% restants, eux, on peut les mettre sur des vélos, ils peuvent marcher. Et donc si on faisait ça, le centre-ville serait réellement apaisé. Les commerçants ne viraient que du bon. J'avais aussi cité l'exemple de Strasbourg qui avait vu son chiffre d'affaires dopé de 30% après la mise en place justement de ce centre ancien piéton. Donc la réalité, c'est que les mobilités actives, c'est, c'est la possibilité réellement de pouvoir accéder au centre-ville. Et la meilleure preuve, c'est que les commerçants que j'avais vus en 2018 ne sont pas venus me voir là samedi pour me dire « tu vas me tuer mon business et mon commerce ». Donc c'est bien la preuve que eux ont compris, en tout cas. Si Serge Grand ne comprend pas, eux ont bien compris l'intérêt qu'il y a pour eux.
Mais, et ces personnes qui disent que les deux ponts, les deux autres ponts... qui traverse la Loire. Bon, il y en a trois maintenant, avec le pont de l'Europe, mais très peu de gens passent par là, je crois. Mais en tout cas, moi, on me cite le pont Joffre et le pont Tina. Il y a deux ou trois personnes là qui sont à l'écoute. Attention à votre réponse. Parce que, ces personnes, elles ont raison ou pas ? Parce qu'une fois qu'on a coupé une voie, c'est la voie de sortie en plus d'Orléans, mais...
C'est qui rentre vers le centre-ville aujourd'hui et qui a vu son trafic baisser fortement. Ouais. Parce qu'avant, c'était 10 000 véhicules dans les deux sens. C'est à peu près 5 000 dans chaque sens. Ouais. Aujourd'hui, on est aux alentours de 3 000 véhicules qui rentrent dans Orléans par le pont Georges V. Et donc, mathématiquement, c'est 1 500 véhicules qui se reporteraient sur le pont Tina et autant sur le pont Joffre. La réalité, c'est qu'il y a 30 000 véhicules qui passent chaque jour sur ces ponts, qu'il y a en effet des périodes de tension et d'embouteillage sur ces deux ponts, mais que ces 1 500 véhicules sur chaque pont ne changeront absolument rien à ce qui se passe aujourd'hui. Le problème est bien plus large que ça, bien plus vaste. Régler les problèmes d'embouteillage à Orléans, c'est d'abord en donnant la possibilité réellement à un grand nombre d'entre eux, et de plus en plus le veulent, de pouvoir passer au vélo. De pouvoir... j'ai un témoignage qui m'a vraiment, moi, énormément plu samedi. Un couple qui a 85 ans, venait et qui habite à Saint-Marceau et qui a signé la pétition en disant « Mais nous, on vient tous les jours en centre-ville faire nos achats. On vient à pied, ça nous fait du bien. » Et donc ça montre bien que, à 85 ans, il y a encore des personnes qui apprécient la marche, voire le vélo. Réellement, encore une fois, certains ne peuvent pas, et évidemment, il faut leur donner la possibilité d'accéder, mais l'immense majorité peut faire différemment. Je veux dire que moi qui habite à Saint-Marceau, jamais je prendrai ma voiture pour aller en centre-ville. C'est juste inconcevable pour moi, au-delà du fait que je sois écolo. C'est réellement beaucoup plus rapide d'aller en centre-ville. On n'a pas de problème pour se garer. Et on ne paye pas pour se garer. Et donc rien que ça, franchement, ça vaut le coup. Puis accessoirement, ça me permet d'être en meilleure santé. Et donc, vous ne me voyez pas parce que c'est de la radio, mais je peux vous dire, j'en ai besoin. Voilà.
Un peu de musique et on revient continuer cette... on n'en occupe plus qu'un quart d'heure, donc très vite, un peu de musique. Et cette interview continue juste derrière. Alors, c'est un groupe danois. I say now put the brakes on now. Time to wait now, be a little late right now. But if you don't, you'll be stranded on a platform. Well, that's a good place to build and to transform. So put the brakes on now. Time to wait now, be a little late right now. Up 5:30 with an instant death wish. Home 5:30, far from festive. Your mind's congested with bullshit, tempers tested. Folded
fist flaming, face act aggressive. Next step, depression and a hermit lifestyle. Hypodermic needle needed, insert that spike now. Fear takes flight now, turn the lights out. At first you feel you're an intellectual lighthouse. Wait for the moment where the shit is neck deep. Then comes the big sleep and
allo, you should allo, allo, allo.
Cause hell is waiting for those who sweat the technique. You could have done differently and pushed the brakes, B. Hold your horses, Moses forfeit. Won't reach the promised land till you count your losses. Your life's in orbit, now get shit sorted. Keeping up appearances, that's retarded. You better run and move a little faster. It's what they say when you're heading for disaster. I say now put the brakes on now. Time to wait now, be a little late right now. But if you don't, you'll be stranded on a platform. Well, that's a good place to build and to transform. So put the brakes on now. Time to wait now, be a little late right now. Put the brakes on, put the brakes on.
Les Daphonix, ils sont effectivement danois et à l'instant, dans A Bâton Rompu, Breaks On, put the Breaks On, appuie sur le frein bonhomme. On va essayer d'appeler Mourad, parce que tout à l'heure je l'ai eu, mais on va essayer de l'avoir tout de suite, parce qu'il avait des questions à poser également. Voilà, ça se fait en direct. Hein. Oui, allô Mourad.
Allô.
Est-ce qu'il est là Mourad? Il nous entend Mourad?
Oui, absolument. Ben, voilà. Absolument.
Et tu as pu écouter la partie de l'interview avec Jean-Philippe Grand?
Ah, mais quand Jean-Philippe Grand intervient, j'écoute avec attention. Mais
toutes affaires cessantes, évidemment.
Absolument, je coupe les pattes, je coupe tout, bien évidemment.
Et je crois que
bonsoir.
Oui. Bonsoir, Mourad.
Je crois que tu avais des questions.
Oui, j'avais deux questions. Bonsoir Jean-Philippe Grand.
Bonsoir.
Je voulais savoir à la fois, alors il y a une actualité brûlante, évidemment, dont parlent tous les médias, y compris nationaux, c'est l'affaire des migrants et des SDF qui seraient déversés, j'emploie le terme à dessein. Je me rappelle de votre intervention au conseil municipal, notamment sur le relais orléanais, où vous aviez été extrêmement ému sur le fait, vous aviez, je crois, alors si mes souvenirs sont bons, vous aviez dit que les migrants ne traversent pas la Méditerranée pour venir manger un sandwich à Orléans, sur la baisse des subventions allouées à une association, à l'association Le Relais Orléanais, évidemment, humanitaire. Et là, il y a eu dans la foulée, notamment, alors tout le monde peut l'observer à Orléans, il y a eu sous la gare d'Orléans, sous l'endroit où on passe de la gare au tramway, il y a eu des espèces de sculptures immondes qui en fait étaient là pour empêcher les SDF de s'installer. Donc il y a une politique très claire de la ville d'Orléans pour empêcher l'installation et la survie des SDF et des migrants. Et il y a eu un discours disant que à cause des Jeux Olympiques, Paris déverserait, au sens propre, hein, déverserait des SDF, des migrants à Orléans notamment, ce qui a été démenti par la préfecture et par de nombreux journalistes, hein, de nombreux spécialistes.
C'est un communiqué de Serge Gouard, hein, c'est le maire d'Orléans qui a dit ça aux journalistes hier, il passe partout pour le dire. Ouais, il y a un communiqué de lui qui dit qu'on déverserait évidemment des migrants à Orléans et il y a cette phrase-là. Orléans n'a pas vocation à accueillir la colline de crack de Paris. Je te laisse continuer.
Voilà. Et la préfecture, je le fais court, la préfecture et puis les journalistes qui ont enquêté dessus, notamment ceux de France Inter, ont dit que non, c'était absolument faux. C'était simplement une répartition provisoire des migrants, des migrants qui ne doivent pas effectivement être uniquement accueillis sur la région parisienne, mais sur l'ensemble du territoire. Comment vous analysez, Jean-Philippe Grand, cette énième prise de position de Serge Grouard, l'homme qui est l'auteur de la lettre aux musulmans les menaçant de représailles et de position extrémiste? Comment vous expliquez ça?
Par une différence majeure entre la manière dont Serge Grouard appréhende l'immigration et celle que je défends depuis toujours. Quand lui voit des problèmes, voit de la drogue, voit de la délinquance, voit un risque pour Orléans, Moi, je vois une opportunité pour la France, pour Orléans, parce qu'on doit, Rocard l'avait dit, hein, on doit, bien évidemment, on ne peut pas accueillir toute la misère du monde, mais on doit prendre notre part. Et c'est exactement ce qui se passe aujourd'hui, c'est exactement ce qu'a expliqué la préfecture. On ne fait que prendre notre part en accueillant ces migrants qui sont ensuite répartis sur l'ensemble de la région centre, parce qu'il y a un pouvoir d'attraction de l'Île-de-France pour les migrants, et qu'ensuite, il faut pouvoir leur donner une chance. En attendant, parce que ce sont des demandeurs d'asile, hein, en attendant que le jugement soit fait sur leur situation, on doit les accueillir. Et donc, encore une fois, moi, je vois une réelle opportunité, parce que j'oublie pas l'histoire. J'oublie pas que la France s'est reconstruite grâce à l'immigration. Je constate aussi qu'aujourd'hui, on rit grâce à un grand nombre d'immigrés, hein, les Gad Elmaleh. Je cite que lui-là, mais vous les connaissez tous. Et aujourd'hui, on voit bien qu'il y a de réelles opportunités avec des personnes à qui, selon Serge Grouard et ses amis, on aurait dû fermer la porte et les empêcher de venir nous aider et nous faire vivre économiquement. Il y a un réel aujourd'hui, évidemment, vous vous souvenez tous de ce boulanger qui avait fait une grève de la faim parce qu'on voulait pas donner les papiers à son apprenti qui était migrant. On est réellement aujourd'hui dans une situation et un tournant pour moi de l'histoire orléanaise, hein, pour savoir exactement ce qu'on a l'intention de faire à l'avenir. Est-ce que on va complètement se refermer sur nous-mêmes et on va tenter, ce qui sera totalement inefficace, de fermer les portes de notre métropole aux migrants, ou est-ce qu'on va prendre notre part ? Et voilà, moi je pense qu'il faut absolument qu'on prenne notre part.
Mais pour l'instant, hein, Mourad, une seconde, je précise peut-être ta question. Est-ce que, pour l'instant, je regarde énormément les conseils municipaux, Serge Brault ne fait pas de sortie comme ça, assez brutale, sur l'immigration, mais est-ce que vous êtes, vous, opposition, RCGE, hein, c'est ça ? Vous irez au clash s'il y a des sorties comme ça lors d'un...
Ah mais on le fait de manière systématique. Il y a eu moins d'ampleur, mais une sortie d'une adjointe orléanaise sur des supposées cultures différentes qui faisaient que certains jetaient de la nourriture comme ça pour les pigeons.
Sur la rue des Carmes, je crois. Hein.
Oui, c'est ça.
Donc concrètement, moi je vois bien ce qui est en train de se passer. Ça a commencé avec les non-vœux de Serge Grouard, ça continue aujourd'hui. Je fais une erreur. Ça a commencé en effet en 2012, et Mourad Guichard le disait, avec ce fameux courrier aux musulmans qui n'était pas un courrier qui aurait pu être un courrier contre l'extrémisme, mais bien contre les musulmans, en leur expliquant que les Français pouvaient être violents et que les musulmans avaient plus de devoirs que de droits. Moi, j'oublie pas ça. J'oublie pas non plus que, voilà, depuis quelques mois, visiblement, le temps du Serge Grouard écologiste est terminé, puisqu'il était plus écologiste que moi en 2020, quand même. Hein, et il a toujours expliqué qu'il était bien plus écolo que moi.
Absolument, c'est ce qu'il
disait. Bien, visiblement, c'est terminé. Et aujourd'hui, il verse vers des positions populistes dont on sait qu'elles ne servent qu'à faire grandir le Front National, enfin le Rassemblement National. Donc voilà, moi, évidemment, on va se battre contre ces déclarations. J'espère que les médias se feront le relais, parce qu'aujourd'hui, c'est un vrai problème. On voit Serge Grouard, je crois qu'il était à BFM aujourd'hui, il fait le tour des médias.
C'est News. Ah, peut-être à BFM.
Ah non, c'était BFM, il semble bien. C'est les échos que j'ai eus.
Oui, absolument.
Donc on voit que, voilà, on voit que visiblement, en tout cas, quand un maire se permet ce type d'outrance, il passe sur des médias nationaux. J'espère qu'on va pouvoir donner la parole. Alors, non pas un petit opposant orléanais au maire, mais à des personnes qui ont certainement beaucoup plus de compétences que moi au niveau national pour le dire. Mais c'est juste scandaleux et de tenir ce type de propos.
Mourad ?
Oui.
Est-ce que...
Absolument.
Oui, tu es toujours là avec nous.
Oui, il ne faut pas oublier non plus François Lagarde, dont j'avais pointé notamment dans l'UMA, dans le Canard enchaîné, la délégation qui était celle de la chasse aux étrangers en 2014, alors qu'il avait remporté très largement son il avait repris son fauteuil d'élus, de maires, il avait nommé François Lagarde, donc un homme d'extrême droite, en charge de traquer les étrangers à Orléans, et donc était un signe très clair, très précis, d'extrémisation de son discours vis-à-vis des étrangers.
Tout à fait. On en parlera, Mourad, on en parlera la semaine prochaine, vraiment, parce qu'on a récupéré du son. On sait très bien que la préfecture n'est pas tout à fait d'accord et elle précise les choses. Elle a précisé ce matin, elle continue à préciser. Et même au niveau national, il y a des prises de parole pour contrer, en tout cas, ce que dit Serge Grouard. On en parlera la semaine prochaine.
Avec grand plaisir.
Voilà. Merci d'avoir... C'est déjà la fin de cette émission. Merci
à vous.
Jean-Christophe merci Grand. On reviendra vers vous pour savoir où ça en arrivera, cette expérimentation que vous proposez pendant 6 mois, la fermeture du pont Georges V à la circulation automobile. Beaucoup de signatures. Alors, c'est sur change.org pour... Et je vous répète, amis auditeurs et auditrices, j'ai mis le lien sur la page Facebook de « À bâton rompu » de l'émission de Radio Campus Orléans. À très très vite.
Ah. Merci, bonne soirée.
Merci Hassan.
Merci à toi. T'avais l'air fatigué là.
Un petit peu.
La montagne, le bonheur de la montagne. Alors, c'est sur les deux radios campus, les programmes continuent. Un peu de musique, je crois, à Tours, avec après du jazz vers 21h, c'est ça. Et puis Ride On sur Radio Campus Orléans. Ce soir, ils sont là. Ce mardi, ils sont là. On termine cette émission généralement en musique, avec souvent des musiques qui sortent de ma cave. Aujourd'hui, Jimmy Cliff, ça s'appelle Number One Rip of Man, c'est sorti en 1970. Passez une belle soirée, une bonne semaine et revenez s'il vous plaît ici mardi prochain.
Au revoir.
You're the number one. a stinking rip-off man. And you're being known right now as Mr. Rip-Off Man.
Mesdames et messieurs, ride on.
Oh nana, boy. Ersenic sound massive, tous les massifs sur la supra. Watch this.
Radio Campus Orléans, you see me?
Émission ride on. Now, earn this.